Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Et ce matin, on va reparler de l'affaire Cézenec, ce fait divers bientôt centenaire, ce feuilleton à rebondissements qui continue à passionner la France au fil des décades. Et ce qui passionne, c'est bien sûr de savoir si oui ou non la justice a condamné à tort un homme envoyé au bagne qui a toujours clamé son innocence. Les enfants et les petits-enfants de Guillaume Cézenec et de Marie-Jeanne, son épouse, entretiennent l'idée d'une erreur judiciaire. Et à chaque épisode de cette affaire, c'est les médias. Une poussée de fièvre médiatique accompagne cette affaire. Mon invité ce matin, l'historien et essayiste Michel Pierre, revient sur le procès Cézenec dans un ouvrage au titre « On ne peut plus clair, l'impossible innocence » et c'est édité par Talandier.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Michel Pierre.
Bonjour.
L'impossible innocence, histoire de l'affaire Cézenec. C'est édité chez Talandier, je viens de le dire. Et j'ai envie de citer Marguerite Duras, le fameux sublime, forcément sublime, qu'avait écrit Marguerite Duras en 1985, à propos bien sûr de l'affaire Grégory, le sublime, forcément sublime, qui voulait dire coupable, forcément coupable, parlant de la mère du petit Grégory, son fils de 4 ans disparu, Christine Villemain. On a su ensuite, bien sûr, que c'était pas la mère qui était coupable de cet assassinat. On a envie de vous dire la même chose, Michel Pierre, pour vous. Vous, Cézenec est coupable, forcément coupable.
Il est, en reprenant tout, et toute archive ouverte aujourd'hui, quelques décennies après les événements, c'est-à-dire aussi bien l'enquête, l'instruction que le procès, on peut avoir aucun doute sur la culpabilité de Guillaume Cézenec, malgré ses dénégations, malgré ses affirmations d'innocence. Et malgré le fait que l'on n'ait pas retrouvé le corps de sa victime, ce qui n'est quand même pas très nouveau pour un certain nombre de faits divers et d'affaires criminelles.
Il faut quand même peut-être résumer cette affaire, même si elle est très connue par les Français depuis les années 20, puisque ça s'est passé un 25 mai 1923. Guillaume Cézenec, propriétaire d'une scierie près de Morlaix dans le Finistère, et son ami Pierre Kemener, conseiller général de ce même département, qui étaient des amis de jeunesse, partent pour Paris à bord d'une Cadillac issue des lots de véhicules bradés par l'armée américaine après la Première Guerre mondiale, parce que les Russes sont intéressés par ces voitures. Donc les deux hommes comptent vendre cette voiture à Paris et ainsi débuter un trafic lucratif. Sauf que ils partent tous les deux et on ne verra plus jamais Pierre Kemener. Et très vite, Guillaume Cézenec va être accusé du meurtre de son ami.
L'enquête prouve d'abord qu'il revient seul, comme vous le dites, de Paris. Je pense absolument pas qu'il y avait la réalité d'un trafic avec les Russes. Au même moment, en 1923, l'Union soviétique pouvait acheter neuve ce même type de véhicule. Ils étaient du reste plus intéressés par acheter des tracteurs sur le marché allemand ou sur le marché anglais qu'ils pouvaient découvrir ou acheter vraiment neuf et non pas se préoccuper de véhicules d'occasion datant de 4 ou 5 ans et laissés par l'armée américaine. Donc l'histoire, alors c'est bien que vous le mentionniez parce que l'idée qu'il y ait un trafic avec ces abominables bolcheviks est un élément de la légende qui va se mettre en place. Comme en plus la voiture c'est une Cadillac, pour nous aujourd'hui et déjà à l'époque c'est le modèle de la belle américaine, même si la torpedo en question était un véhicule destiné aux officiers américains sur le front. Donc on a déjà deux petits éléments, on a la Cadillac d'un côté, les bolcheviks de l'autre, et vous avez déjà un élément de ce qui va se mettre en place de la légende que vous évoquiez. Donc effectivement Cézenec va revenir seul sans au départ beaucoup s'inquiéter de son compagnon, et puis petit à petit l'enquête va montrer. On ne va pas rentrer dans les détails parce que on dit fréquemment qu'effectivement l'opinion publique connaît l'histoire est tellement complexe et tellement compliquée que la résumer en quelques lignes est assez difficile. Disons que on va se rendre compte que Cézenec s'est déplacé deux fois, en particulier au Havre, pour d'une part envoyer un télégramme signé Kemener qui s'avère être un faux et rassurant la famille du dit Kemener. Il va également ramener de ce premier séjour au Havre une machine à écrire. avec lequel il va rédiger des fausses promesses de vente pour s'emparer de d'un domaine du disparu. Et pour l'enquête, puis ensuite pour l'instruction, les faux qui sont incontestables. Aujourd'hui, absolument personne qui connaît un petit peu cette affaire ne conteste le fait que Guillaume Cesnec ait fabriqué des faux pour acquérir de manière illégale une grande propriété, surtout 90 hectares de bois, et quand on s'occupe d'une scierie et qu'on est dans ce type de trafic...
Au tiers de son prix, hein.
Au tiers de son prix, en mentionnant qu'il a payé en dessous de table, en pièces d'or, qui n'ont par ailleurs jamais existé. Et puis, c'est ça, en fait, qui va être le nœud de l'affaire. Il aurait suffi, par exemple, que Guillaume Cesnec prouve que les deux jours, le 13 juin et une semaine après, le 20 juin, où d'innombrables témoins l'ont vu au Havre, y compris... acheter la machine qui a servi à taper les fausses promesses de vente, il aurait suffi qu'il explique ou qu'il démontre qu'il était à Saint-Brieuc, comme il le dit, qu'il avait dormi dans un hôtel, qu'il est incapable de retrouver. Or, à l'époque, en plus, on remplit des fiches quand on va à l'hôtel. La police mène l'enquête et on n'a jamais rien retrouvé comme alibi pour Cesnec. Donc, il va tenter, en plus, quand il sera emprisonné avant le procès, de susciter des faux témoignages. On a, en plus de lui, une enquête de proximité qui montre que le personnage est quand même pour le moins douteux. Et j'ai découvert en archive, dans une lettre manuscrite de son beau-père, que 10 ans avant les faits, il avait déjà l'habitude d'imiter des signatures et de faire des faux. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'il faisait en 1912, il le reproduit en 1922, mais quand même, on n'a pas affaire à un ange innocent. Comme on l'a décrit par la suite, on a affaire à un petit homme d'affaires retors, difficile, ne payant pas ses dettes et exigeant par contre les factures qu'il remet. Donc quelqu'un de procédurier, qui est par ailleurs bon père de famille et bon époux, mais qui a une réputation qui n'est pas très bonne dans Morlaix où il possède sa scierie. Mais une réputation ne fait pas obligatoirement, ou même une mauvaise, un criminel.
Mais alors, raconter comme ça ce fait divers, Michel Pierre, pourquoi, après tant d'années, l'affaire Cesnec continue-t-elle de susciter une telle passion ?
Mais c'est ça qui fait vraiment le livre et l'intérêt de l'historien. C'est vraiment la question qu'on se pose. Comment se fait-il qu'un siècle après, on ait encore à en deviser et à en parler ? Quand on a ce type de... D'abord, le fait divers passionne. Le fait divers passionne l'opinion, quel qu'il soit. Vous évoquiez l'affaire Grégory, parce que avec le fait divers, vous êtes dans des sentiments immédiatement compréhensibles. Vous êtes dans la jalousie, vous êtes dans le meurtre, vous êtes très souvent dans l'horreur. Vous êtes dans les fluides de l'espèce humaine, vous êtes dans le sang, vous êtes dans le sperme, vous êtes dans la sueur, enfin, vous êtes dans quelque chose qu'immédiatement n'importe qui peut comprendre. Ça ne nécessite pas d'avoir des connaissances culturelles considérables pour s'intéresser à un fait divers. C'est le premier élément, un vrai fait divers. Il faut aussi que ce fait divers soit incarné. Mmh. Et là, comme vous le disiez, on a Guillaume Cesnec, on a sa femme, on aura ensuite sa fille et ensuite le petit-fils. Donc c'est ce qui fait le fil rouge sur un siècle. Et puis, non seulement cela doit être incarné, mais cela doit être dans un territoire. Et le fait que tout ça se déroule en quelque sorte en Bretagne, entre deux Bretons, va d'abord fasciner la presse de Paris, qui vient voir un petit peu une province qui, encore dans les années 1920, on voit bien dans les reportages qui sont faits, les femmes en coiffe, les hommes en sabots, donc il y a quelque chose d'un peu exotique.
Les hommes qui sont revenus de la guerre vivant, parce que c'est la région la plus touchée par la première guerre.
C'est pas complètement, et je le dis en tant que Breton, la région la plus touchée, mais c'est l'une qui a ressenti le nombre de morts, de blessés, etc., sans doute avec le plus de force, avec l'idée qui se développe un peu d'en vouloir presque au gouvernement parisien. Et c'est un élément qui est difficile à déceler, mais je pense qu'il est présent. On se dit que c'est la justice, et la justice centrale, la justice de Paris, qui a en renvoyer en quelque sorte un Breton au bagne et un Breton innocent de surcroît, en oubliant totalement que que Guillaume Sesnec a été condamné par des jurés bretons au tribunal à la cour d'assises de Quimper et dans un contexte où tous les jurés étaient des Bretons. Donc c'est après qu'on imagine cette justice qui en veut particulièrement à quelqu'un, et on va construire peu à peu l'innocence d'un coupable. C'est moins grave que la culpabilité d'un innocent, hein. Mais en reprenant tous les documents et en voyant comment tout ça a été mené tant par les policiers que les magistrats, on ne peut absolument pas considérer qu'il puisse y avoir une machination policière, une affaire d'État ou je ne sais quoi.
Il y a la Ligue des droits de l'homme qui va dans le sens contraire de ce que vous dites, Michel Pierre. Ils vont croire en l'innocence de Sesnec. D'autres juges, d'autres personnalités, des journalistes, des artistes vont prendre position pour dire que cet homme a été envoyé au bagne alors qu'il n'était peut-être pas coupable du meurtre de son ami.
Alors là, il faut faire la part essentielle, surtout quand on fait de l'histoire, à la chronologie. Quand il part en 1920, qu'il est condamné en 1924, il va partir pour les travaux forcés à perpétuité en Guyane. Personne dans la presse, aucun organe de presse, aucun article, pas le moindre journaliste ou chroniqueur judiciaire ne laisse supposer qu'il y ait pu y avoir erreur judiciaire. Absolument pas. C'est quelques années plus tard, en 1930, qu'un juge fou, il n'y a pas d'autre mot, qui venait de démissionner du reste du ministère de la Justice, et ce juge qui va réussir, comme un certain nombre les fous osent tout, hein. Donc il va avoir une forme d'énergie et de d'ampleur des convictions qui va finir par entraîner celle d'une institutrice du Finistère qui est la représentante de la Ligue des droits de l'homme dont vous parlez. Et ces deux personnes vont recevoir, pour compléter le trépied, le soutien d'un hebdomadaire fasciste, il n'y a pas d'autre mot, antisémite et antimaçonnique de l'époque, qui s'appelait La Province, qui était publié à Rennes. Et cet attelage invraisemblable du juge quelque peu dérangé, de l'institutrice pleine de bonne volonté et de l'hebdomadaire fasciste va faire démarrer toute une campagne de presse, de réunions, sur des hypothèses extravagantes sur lesquelles il n'est même pas la peine de revenir. Et par rapport à ce que vous dites sur les jurés, d'abord c'est pas tous les jurés, mais cet ancien juge d'instruction et l'institutrice de la Ligue des droits de l'homme vont écrire aux 12 jurés et ils vont les convoquer. Il faut bien voir qu'ils vont les convoquer, pas une lettre, vous venez si vous pouvez, non. Ils vont convoquer les 12 jurés à la Maison du Peuple à Brest en leur disant, on va vous expliquer ce qui s'est passé. En l'occurrence, ce que le juge, puisqu'il s'appelait Hervé, le juge Hervé, va dire que le coupable, c'est le frère du disparu qui est rentré inopinément dans une propriété, qu'il l'a trouvé en bonne compagnie, qu'il a voulu profiter de la situation. Faut que je passe le détail. On n'oserait même pas dans un roman feuilleton du 19e siècle. Donc, ce qui se passe, c'est que ces jurés, convoqués par un ancien juge et par une institutrice, vous voyez, vous y allez parce que vous demandez ce qui se passe. Et comme le juge à la faconde de quelqu'un d'un peu dérangé et qui va expliquer autre chose, ces braves jurés ayant en face d'eux une institutrice et un ancien juge d'instruction vont dire, ah ben oui, peut-être qu'on s'est trompé, très impressionné par l'autorité de ces personnages. Vous voyez, c'est pas, ils se sont pas réunis spontanément. Ces jurés, ils ont été, le mot est utilisé, ils ont été convoqués et ils ont signé un texte préparé à l'avance. C'est pas du tout eux qui l'ont rédigé, les jurés. On leur a expliqué l'hypothèse du juge et ils ont ensuite signé, pour partie d'entre eux, en comprenant pas du reste bien ce qu'ils signaient. Et à partir de là, et vous en faites mention, la légende des jurés revenant sur leur jugement a commencé à naître. Et quand vous parlez de la Ligue des droits de l'homme, ce que j'ai trouvé dans les archives de la Ligue des droits de l'homme, parce que toujours aller vers les archives, c'est au niveau central à Paris, la Ligue des droits de l'homme est assez mal à l'aise avec cette histoire. Elle va dans un premier temps suivre sa représentante locale dans le Finistère, qui n'est pas la position de la section de l'Ille-et-Vilaine, par exemple, qui, elle, considère, mais qu'est-ce que Ligue des droits de l'homme, on va se commettre avec un juge cinglé et en plus avec un hebdomadaire fasciste. Alors, pour la Ligue des droits de l'homme, c'est un peu bizarre. Ce qui fait qu'à Paris, on est très prudent avec cette histoire et ce qu'on va demander assez rapidement, c'est non pas la révision du procès, parce que il y a rien à réviser comme on l'a vu à une période beaucoup plus récente, mais vont demander la grâce de Sesnec, qui est un homme déjà âgé quand il est au bagne. Donc la Ligue des droits de l'homme ne demande pas, au début elle le demande, en suivant son représentant local, mais se rendant compte dans quel piège elle est en train de rentrer, elle va se contenter de demander la grâce.
Parce qu'il y a l'ombre d'un doute, du coup.
Ben, quand vous demandez la grâce, c'est pas obligatoirement que vous ayez l'ombre d'un doute. Vous demandez la grâce de quelqu'un dont vous pouvez considérer qu'il est coupable, mais qu'il a suffisamment déjà payé par quelques années de bagne, et que finalement, par rapport à sa famille, ce serait pas mal qu'il puisse rentrer, qu'il soit gracié. Donc c'est pas un certain nombre de personnes, y compris à l'époque, et de journalistes n'ont aucun doute. C'est-à-dire il y a eu une majorité de l'opinion publique qui petit à petit, par un certain nombre de fausses informations, il n'y a pas d'autre mot, on se sont auto-persuadés, ont été persuadés, sans qu'il y ait un complot, hein, je sais pas du tout. C'est un phénomène qui mérite d'être analysé, ce que j'ai tenté de faire dans le détail, pour voir comment la majorité de l'opinion publique va être persuadée de cette erreur judiciaire. Et c'est pour ça que la décision, par exemple, beaucoup plus récente, puisque nous parlions des années 20, en décembre 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation qui...
Nouveau rebondissement, donc.
Un nouveau rebondissement, là, il faudrait rentrer...
Médiatique, du moins.
Médiatique et voulu par la ministre de la Justice de l'époque, cette révision du procès, qui se trouvait être la maire de Morlaix par ailleurs. Donc, comme vous avez une opinion publique acquise à l'idée de l'innocence et de l'erreur judiciaire à 95%, vous avez, et c'est normal, plutôt tendance à la satisfaire, pour donner aussi une image de la justice qui pouvait être un petit peu embellie en montrant qu'elle est capable, cette justice, de revenir sur la chose jugée. Sauf que lorsque la Cour criminelle de la Chambre de cassation va travailler entre 2005 et 2006 avec 33 magistrats qui vont reprendre l'ensemble du dossier... Aucun d'entre eux n'avait jusqu'alors été en quoi que ce soit concerné par cette affaire. Ils vont reprendre, un peu comme je l'ai fait, l'ensemble du dossier pour s'apercevoir qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause le jugement de 1924. Mais tout ça n'a aucune importance pour l'opinion publique, pour l'honneur des magistrats. C'est plutôt bien parce que, en l'occurrence, les magistrats qui vont juger à la chambre criminelle de la Cour de cassation s'opposent à leur propre ministre, aux différents ministres, du reste, qui se sont succédés à ce moment-là, qui, eux, auraient considéré, après tout, c'est une histoire ancienne, on satisfait l'opinion et on déclare que Sesnec est innocent. Et en fait, les 33 magistrats ont jugé très majoritairement désolé.
Et
nous,
la piste
on ne peut pas.
C'est peut-être sa femme qui a commis le meurtre et son mari, donc Sesnec, qui voulait la protéger, n'a pas tenu. Vous n'y croyez pas, Michel Pierre.
Non,
dans votre ouvrage, l'impossible innocence, histoire de l'affaire Sesnec, vous n'y croyez pas du tout, puisque vous prenez le soin de rappeler que cette version qui se base sur le fait que peut-être Kemener a essayé de draguer la femme de Sesnec ne pouvait pas tenir, puisqu'il il serait, d'après vous, pas attiré par les femmes.
D'après ces documents qu'on peut trouver, l'un d'entre eux en particulier, aux archives départementales de Quimper, on est plutôt en présence de quelqu'un qui n'avait pas d'appétence particulière pour les femmes en général, et vraisemblablement pour Madame Sesnec non plus. Il est certainement pas revenu en plus de Paris, profitant du fait que Guillaume serait pour en vouloir à la vertu de Madame Sesnec un dimanche midi, en plein jour, quand les enfants qui jusqu'alors sont en pension, sont là. Toute cette histoire est totalement extravagante. Mais il y en aura d'autres, hein, je vous rassure tout de suite, on trouvera encore dans les années qui viennent d'autres hypothèses. On a à peu près fait le tour des possibilités, mais je fais confiance à l'imagination des uns et des autres et aux enquêteurs improvisés de trouver encore d'autres scénarios.
Pourquoi vous vous êtes intéressé à l'affaire Sesnec, Michel Pierre? Vous allez me dire, je suis historien, bien sûr, mais comme vous nous avez avez précisé que vous étiez aussi breton, c'est aussi pour remettre en cause la version qui vous a accompagné durant votre enfance, votre jeunesse.
Oui, alors c'est deux choses qu'on entend évidemment.
Ouais,
qu'on
c'était présent dans votre
vie. Oui, c'était présent dans ma famille. Et puis, je suis aussi historien des bagnes et de la Guyane, donc j'avais croisé le dossier Cesnec condamné au bagne et son dossier quand il est là-bas, autant à l'île Royale qu'à Saint-Laurent-du-Maroni. Mais c'est surtout, comme historien, l'analyse de l'opinion publique. C'est-à-dire, comment dirais-je, quand je travaille aussi sur des sujets culturels, l'opinion publique m'inquiète. Ouais. C'est quelque chose
Alors c'est un sujet d'actualité, parce que d'ailleurs, votre ouvrage consacré à l'histoire à Cesnec commence par une citation de William Shakespeare qui dit « Peste que soit l'opinion publique, un homme vous l'endosse à l'endroit aussi bien qu'à l'envers ».
Oui, je m'abrite sous Shakespeare, ce qui est certainement extraordinairement prétentieux, mais il faut s'armer quand même. On a un peu droit à avoir un peu d'intelligence, de réflexion, d'affronter les... Dans l'affaire Cesnec, vous croisez aussi les théories du complot, les machinations, etc.
Enfin, et tout ça avant les chaînes d'infos en continu, avant BFM et avant les réseaux sociaux.
Oui, mais
Ça a toujours existé.
Même avant du temps des feuilles volantes, du temps des colporteurs, du temps des chansons pénales. Et là, on a quand même la grande presse. Hein, la grande presse qui sent qu'il y a dès les années 30, quoi, et qui ne vont pas... On voit un hebdomadaire aujourd'hui disparu et dont peu de personnes se souviennent, mais qui tirait quand même à 500 000 exemplaires dans les années 1950, un hebdomadaire qui s'appelait Radar, qui était vraiment un hebdomadaire visant à, le plus grossièrement possible, il n'y a pas d'autre mot, appâter l'opinion publique. Et c'est Radar qui va obtenir en quelque sorte les mémoires de Guillaume Cesnec. Alors c'est toute cette histoire aussi que je raconte, parce qu'il y a des affrontements entre organes de presse, pour être les premiers sur le terrain, pour être les premiers à recueillir tel ou tel témoignage. On n'est pas dans les réseaux sociaux, comme vous dites, mais on est dans des grands combats entre un magazine comme Détective, par exemple, qui tirait là aussi à 300 ou 400 000 exemplaires par semaine, et qui fait un nombre de couvertures relativement dense sur l'affaire Cesnec, dès les années 1930 et encore dans les années 1950.
Pour terminer, Michel Pierre, l'impossible innocence de l'affaire Cesnec, c'est pour mieux montrer que la justice peut être complètement dépassée par l'hystérie des médias ou par une opinion publique qui est alimentée par d'autres réseaux d'informations, par d'autres raisons.
Mais justement, non, c'est presque un livre optimiste sur l'indépendance des magistrats, parce que les magistrats composant la Cour criminelle de la Chambre de cassation de 2006 ont eu le courage de résister à l'opinion publique. Ils savaient très bien qu'en prenant la décision de considérer que la révision ne pouvait avoir lieu et qu'il n'y avait aucune raison de refaire un procès ou de considérer qu'on s'était trompé en 1924, ces magistrats, ils n'avaient pour certains d'entre eux pas mesuré les insultes et tout ce qu'ils allaient recevoir de la dite opinion publique, des magistrats qui, pour certains d'entre eux, avaient jugé quelque temps auparavant Papon, par exemple. Donc on est vraiment sur des magistrats de tout honneur, je dirais, par rapport au cas qu'ils ont pu étudier. Et ils ont fait preuve, y compris vis-à-vis de leur autorité, de leur hiérarchie et du ministre, d'une véritable indépendance. Il en faut. Quand vous savez qu'à 95% l'opinion publique veut que vous alliez vers l'innocence et qu'au vu simplement des documents, des dossiers...
Ce qu'il faut avec l'affaire Cesnec, c'est que cette opinion publique était d'abord persuadée de la culpabilité de Cesnec. C'est le fait qu'elle ait changé radicalement.
Elle change à travers certaines choses que nous avons évoquées, mais justement, ce qui est bien, c'est que les magistrats n'ont pas plus tenu compte, en quelque sorte, au moment du procès, ils l'ont condamné justement, mais sans
enfin, justement, le bagne, je ne sais pas si c'est une...
Non, parce que tout a été respecté. Moi, j'ai travaillé sur le dossier, par exemple, du président de la cour d'assises, du magistrat, puisque nous en parlions de magistrat, qui était un magistrat d'une intégrité absolue. Le juge d'instruction est considéré par sa hiérarchie comme quelqu'un qui est extrêmement prudent. On lui reproche presque sa prudence. C'est-à-dire le juge d'instruction qui va travailler pendant des mois, pendant presque un an, sur l'affaire Seznec, instruit beaucoup à décharge. Il cherche vraiment, hein, c'est le rôle du juge d'instruction, on instruit à charge et à décharge, et il n'a absolument pas instruit à charge. Il a vraiment, on le voit très bien quand on est dans le dossier, il a aussi vraiment travaillé à décharge. Il y aurait eu des éléments où Seznec aurait pu prouver ou donner un certain nombre d'alibis. Il aurait été immédiatement libéré. Non, c'est un livre sur des mécanismes d'opinion publique et je ne le savais pas au début de mes recherches que finalement j'allais ressortir de cet ouvrage avec une certaine image plutôt positive, récente, puisque je parle de 2006, de magistrats qui ont su simplement s'en tenir aux faits, s'en tenir aux archives et en revenant sur la réalité des faits.
Quitte à voir l'opinion publique et plus précisément l'opinion de Breton contre vous, Michel Pierre. Comment on a réagi à la sortie de votre ouvrage édité chez Talendier, je le rappelle, L'impossible innocence, histoire de l'affaire Seznec.
Les conférences que j'ai pu faire ou les articles parus par exemple dans Ouest France ou dans un magazine qui s'appelle Breton ne posent pas de problème. J'ai même l'impression que j'ai un peu soulagé certains qui n'osait pas dire que finalement le Guillaume Seznec, il était peut-être pas tout à fait conforme à l'imagerie d'Épinal qu'on en avait fait. Et je n'ai eu aucune. Alors parfois j'ai des contradicteurs qui me demandent de préciser tel ou tel point, mais jusqu'à présent je n'ai été victime d'aucune action, d'aucune lapidation. Alors quelques insultes dans les réseaux sociaux, mais ça c'est normal. Il n'y a pas de problème. Et puis là, je vais faire plusieurs interventions. Et je peux me rendre en Bretagne sans avoir des gardes du corps.
Michel Pierre, merci d'être passé ce matin.
Merci beaucoup.
C'est édité chez Talendier, L'impossible innocence, histoire de l'affaire Seznec.